Paul a maille à partir avec cette église de Corinthe qu'il a fondée. De son point de vue, il y règne un désordre moral et aussi des dissensions entre ceux qui se revendiquent de Paul et d'autres qui se revendiquent de quelqu'un d'autre. Et Paul, dès le début de sa lettre, leur avait dit: Regardez mes frères, il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Il est probable que ces autres, selon Paul, ses concurrents, pour ce qui devrait être un même évangile, usent des arguments de la sagesse humaine, de la philosophie. Ce serait la raison pour laquelle Paul critique violemment ce qu'il appelle la sagesse du discours. Nous l'avons entendu à la lecture d'un des textes du jour, et ce qui va suivre et que je vais vous lire va vous montrer qu'il insiste et avec quelle force. Encore une fois, au début de sa lettre, après les salutations d'usage, Paul plante le décor de sa critique. 1 Corinthiens 1. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Et on verra qu'il y a un problème avec cette traduction, vaine. Car la prédication de la croix, poursuit-il, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Et oui, c'était effectivement écrit dans la prophétie d'Ésaïe au chapitre 29. Et Paul continue sa plaidoirie. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Et quand on se met à penser au monde, il est difficile de contester. C'est tout l'art de Paul, finalement, d'empêcher la contestation, et il continue. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ce n'est pas pour baptiser que je suis là, dit-il, mais pour annoncer l'évangile. Il est possible que ses adversaires sur place, eux, fassent beaucoup d'adeptes au moyen de nombreux baptêmes. Paul prend donc une grande liberté en s'éloignant du commandement de Jésus qu'il connaissait peut-être, à savoir, Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, je suis là, dit-il, pour annoncer l'Évangile, et peut-être pas pour compter mes adeptes en baptisant en série et en m'en félicitant par des statistiques. Mais quelle mouche pique donc Paul pour aller critiquer la sagesse, le discours, lui qui fait des discours finalement, et lui qui pourtant a été formé à la meilleure école pour un pharisien. Voici une parole de Paul relatée dans le livre des Actes des Apôtres. Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit aux pieds de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Gamaliel n'était pas n'importe qui, il apparaît même avec éclat dans le même livre des Actes devant le Sanhédrin pour défendre des apôtres qui avaient transgressé l'interdiction qui leur avait été faite de prêcher. Mais Gamaliel était aussi le petit-fils de Hillel, celui qui est reconnu comme le plus célèbre rabbi du Talmud, où on y raconte à son propos, par exemple, Lorsque la Torah fut oubliée d'Israël, Esra monta de Babylone et la rétablit. Lorsqu'elle fut de nouveau oubliée, Hillel le Babylonien monta et la rétablit. Quelle mouche pique donc Paul à critiquer l'essence même de ce qui le constitue, lui, écrivain et véritable philosophe, dialecticien brillant de l'Évangile. Nous avons vu qu'il y aurait un contexte à Corinthe qui le forcerait à critiquer la prétendue sagesse d'adversaire, sans doute, allez, on y va, dans l'hypothèse plus jeune que lui, et qui, comme lui, prétendent défendre l'Évangile. Mais au-delà du contexte, il y a ce qu'il ressent profondément, emporté qu'il est par sa passion de Dieu. Déjà, en bon juif, il a en horreur qu'on puisse prétendre à finalement faire entrer Dieu dans n'importe quelle forme de langage ou de sagesse. Pour lui, ce serait au bout du compte, blasphématoire, de prendre Dieu et en quelque sorte le manipuler à travers des formulations même brillantes, même logiques et même empreintes de sagesse. Ce que fait Dieu selon Paul et ce qu'il serait n'est pas compréhensible par la raison, n'est pas soluble dans la sagesse, n'est pas discernable, y compris dans l'étendue des mots. La prédication, une folie, mais une folie qui sauve, contrairement à la sagesse des hommes qui, elle, au mieux, convainc. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Vous pratiquez la force de l'argumentation, vous valorisez la victoire acquise par les mots, la logique, la persuasion. Moi, je prêche Christ crucifié. Christ, c'est-à-dire le Messie attendu, le roi qui doit venir rétablir tout ce qui a été abattu. Crucifié, c'est-à-dire pendu à une croix, faible, mort, lui-même abattu. Voilà ce que je prêche. C'est de la folie. Cette folie ne vous convaincra jamais, mais elle vous sauvera. Et vos discours vous empêchent de vous approcher de cette croix répugnante parce que vous êtes sage, que vous avez toujours été sage et même bien sage. Et que ce que vous ne comprenez pas, c'est-à-dire ce qui ne vous avait pas déjà été dit et enseigné d'une façon ou d'une autre, eh bien, tout ça, vous le méprisez et le rejetez. Bien sûr, Paul est habile et bien sûr qu'il use de rhétorique lui aussi, mais il n'explique pas pourquoi ce Christ crucifié est salvateur. S'agit-il d'un sacrifice expiatoire? La théorie sacrificielle n'est pas la pensée dominante de Paul et ça c'est clair. Sans doute parce que cette théorie est pour lui encore une fois un discours, encore une fois une logique, une explication. Ce que Paul met en valeur, plus simplement, c'est la faiblesse, celle qu'il revendique pour lui, assez souvent, mais celle qu'il présente comme vecteur de salut, le Christ de Dieu crucifié. Contre toute attente et même contre toute espérance, il présente la faiblesse de Dieu et il témoigne devant toute la volonté de puissance de ceux qui s'apprêtent à faire commerce de l'Évangile. Il témoigne. Ainsi, Paul, finalement, ne délivre pas de message. Il ne se contente pas, comme nombre de prédicateurs de l'Évangile, de produire des formulaires à remplir avec des cases à cocher pour être bien ou conforme à l'idée que l'on se fait de l'Évangile. Il présente la croix et ne veut pas que celle-ci soit vidée. Oui, littéralement vidée, je cite, sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas vidée et non pas vaine, comme c'est malheureusement si souvent traduit. Vidée, non pas vidée de son sens, comme une espèce de magnétisme d'une formule habituelle pourrait nous le faire penser, mais vidée de sa puissance paradoxale évidemment, de vie. Paul traverse le nuage de discours qu'il considère comme une espèce de pollution au-dessus de nos têtes, et par sa parole insensée, il le perce, ce nuage, et vise directement un endroit où les mots n'ont plus aucune espèce de valeur. La réalité profonde d'un Dieu incompréhensible, mais qui sauve, alors qu'une certaine forme de sagesse aliène en faisant croire en sa propre vérité. On ne s'étonnera donc jamais que le bouleversement, le cataclysme protestant, soit passé par une lecture bouleversée des écrits de Paul par Luther, qui a éprouvé lui aussi finalement l'au-delà du nuage de sa propre culture, de sa propre sagesse, intelligence, et qui a éprouvé cette puissance inintelligible qui sauve et n'a pas à se justifier ni à être justifié par les clercs, par exemple, qui font commerce de la religion comme lui le faisait avant sa conversion. Mais attention, Paul ne laisse pas son auditoire en suspens devant cet absolu incompréhensible qu'on doit néanmoins avoir effleuré pour ne pas en rester avec ce que j'appelle la foi des mots et avec elle toute l'ironie et la distance, voire la distanciation. Il sait, Paul, évidemment, que l'humain, lui y compris, est fait de langage et a besoin de sagesse à partir du moment où on a été saisi par le salut qui n'est donc pas venu de l'extension de son raisonnement et d'autres de ses nombreux mérites. Au deuxième chapitre de cette même lettre aux Corinthiens, Paul explique et rassure. Et je vous laisserai donc avec ce passage du chapitre 2 dans lequel il va valoriser une autre forme de sagesse, mais ce ne sera plus la sagesse humaine qui, selon Paul, prétend sauver, mais la sagesse de Dieu. Il dit, 1 Corinthiens 2, chapitre 2, versets 6 à 10. Cependant, c'est bien une sagesse que nous énonçons parmi les gens accomplis, une sagesse qui n'est pas de ce monde, ni des princes de ce monde, qui doivent être réduits à rien. Nous énonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu a destinée d'avance depuis toujours à notre gloire. Aucun des princes de ce monde ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais c'est, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas venu au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et qui donc, parmi les humains, sait ce qui relève de l'humain, sinon l'Esprit de l'humain qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui révèle de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Alors là, Paul est effectivement plus doux dans l'expression, mais ce qu'il dit reste parfaitement radical. Amen.